Alors, deux minutes sur le 106.2, le rendez-vous, on va dire, avec Marie-Pierre, est pris maintenant, elle est là. Alors, aujourd'hui, Marie-Pierre, bonjour.
Bonjour Marina.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Marina, bonjour Marie-Pierre, bonjour Isabelle.
Alors, aujourd'hui, on va un petit peu, la dernière fois, c'était sur la cigarette.
Oui.
Et aujourd'hui, eh bien, on va parler un petit peu des problèmes de...
alimentaires.
Alors, les problèmes alimentaires, quels peuvent-ils être ?
Alors, ici, ce que je vous propose, c'est d'évoquer des thématiques comme la boulimie, la compulsion, le grignotage intempestif. Alors, peut-être de définir le trouble alimentaire. On va se dire qu'il y a un problème de type trouble alimentaire à partir du moment où ça empêche de vivre, c'est-à-dire où ça, où la nourriture et la relation
devient primordiale, c'est
voilà,
ça.
Voilà, où ça devient quelque chose qui est obsessionnel et qui va empêcher d'avoir une vie normale, qui va avoir un impact sur le travail, sur la vie sociale. Donc, on va s'empêcher d'aller au restaurant, s'empêcher d'aller chez des personnes, ou avoir l'attention et les pensées qui sont vraiment mobilisées, où on est obsédé par des calories, obsédé par des régimes, obsédé aussi par un certain type de nourriture. Là, on va parler de orthorexie. Hein. Ortho, ça veut dire droit. Donc, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment focalisés sur il faut absolument que ce soit bio, il faut absolument que ce soit avec telle caractéristique, et où ben, la vie devient vraiment très très compliquée pour ces personnes et pour leur entourage.
Et ces personnes, quelles sont les plus ciblées ? Les hommes, les femmes, les enfants ? Quelles sont les... Je suppose que c'est les dames.
Alors, les dames en parlent...
Pour le poids.
Guillemets, oui, voilà, peut-être plus facilement. Mais moi, dans mes ateliers qui sont intitulés « Je m'assis par hypnose », j'ai néanmoins des personnes qui n'ont pas nécessairement de problème de surpoids, mais qui sentent que ce n'est pas normal. C'est pas normal de se peser tous les jours et voire plusieurs fois par jour. Ce n'est pas normal de se mettre toujours au régime. Et donc, elles sentent qu'elles ont leur pensée, leur vie qui est tout à fait dirigée par cette obsession de la nourriture. Voilà, et elles font ces ateliers. Les femmes auront tendance à en parler peut-être plus facilement. Elles en parlent d'abord au niveau régime, et donc c'est un partage entre copines, entre collègues, ces histoires de régime. Et puis après, elles vont parfois un petit peu plus loin dans la confidence, où on se rend compte, moi c'est un problème pour moi si je dois inviter quelqu'un, problème pour moi si je vais au restaurant, et je suis obsédée par cette nourriture, où je mange et je vomis, des choses comme ça. Mais les hommes commencent à en parler de plus en plus aussi. Et au niveau des enfants, ce sont des enfants pour qui les parents remarquent qu'il y a effectivement un problème, ou malheureusement des parents qui veulent trop bien faire et qui installent le problème, voire qui l'entretiennent.
Maintenant, ça c'est une petite question comme ça que je vous pose. Est-il vrai qu'une personne qui a été opérée donc de l'estomac ou de bypass aurait tendance à se voir, en ayant maigri, à se voir, à voir toujours les kilos quand elle se regarde dans un miroir?
Ça peut, c'est ce qu'on retrouve dans des troubles comme dans l'anorexie. En fait, elle la mincit un peu malgré elle. C'est un peu comme j'expliquais avec la cigarette, les personnes qui arrêtent de fumer sans vraiment en prendre conscience. L'opération, ça peut être ça. Il faut se dire que la personne peut rester obèse ou en surpoids dans sa tête et continuer à intégrer cette image corporelle. Et en plus, ce qui se passe, c'est que après cette opération, rien n'a changé au niveau de la relation qu'on a à la nourriture et au niveau de l'image qu'on a de soi. Donc moi, dans mes ateliers, je propose l'anneau gastrique virtuel. Hein, donc on fait cet anneau gastrique sous hypnose. Mais je demande aux personnes de faire d'autres ateliers où on va travailler sur la cause du trouble alimentaire.
Donc Marie-Pierre, si je comprends bien, c'est obsessionnel, donc c'est quelque chose qui est psychique, ça oui. Se passe dans le cerveau de la personne.
Tout à fait, oui.
Et ça, on sait le corriger ?
Et ça, on sait le travailler, à condition de réaliser que le trouble alimentaire et le surpoids n'est pas le problème en soi, mais que le vrai problème, c'est ce qui est sous-jacent, c'est ce qui est en dessous. C'est se dire, si je prends du poids, c'est parce que mon comportement alimentaire est dysfonctionnant. Et si mon comportement alimentaire est dysfonctionnel, c'est parce que j'ai un mal-être. Et donc, on va travailler sur ce mal-être de base, qui peut être une difficulté émotionnelle, une difficulté relationnelle, une difficulté sexuelle. La sexualité et les troubles alimentaires, c'est vraiment quelque chose qui est lié. Il y a vraiment un lien entre les deux. Et donc, on va travailler sur ce qui est à la base, gestion des émotions, gestion des relations avec les autres, tout ça, ça peut être à la base des troubles alimentaires. Mais si on ne s'intéresse que aux comportements dysfonctionnants, ben là, on ne va pas dans la bonne direction.
D'accord. Marie-Pierre, alors, rassurez-moi quand même quelque part, parce que moi, j'aime le chocolat.
Tant mieux,
d'accord,
moi aussi.
Attendez, attendez, la suite, elle arrive. Donc, en fait, je vais chercher du chocolat. Je prends un petit morceau.
Oui.
D'accord. Puis, je vais me rasseoir. Et puis, je suis tellement obsédée par ce chocolat que je me relève, mais à 45 fois, jusqu'à ce que j'ai fini le chocolat. Mmh. Est-ce que c'est...
C'est une grande tablette, ça, déjà, on se dit.
Oui. Oui, parce que je ne prends que des tablettes.
Alors, donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Déjà, de se dire qu'il y a des aliments qui sont addictifs, qui provoquent la dépendance. C'est le cas du chocolat et c'est le cas des chips, par exemple. Ça, il faut savoir que la dépendance est là. Donc, ça ne va pas être facile de se débarrasser de ça. Voilà, je comprends qu'il y a des personnes qui sont...
Mais non, je vous le dis, moi. Et tant que je sais que ma tablette est là, dans le frigo, oui. Tant que je sais qu'il y a un morceau, je n'en démordrai pas, je vais me relever, je vous dis, 45 fois pour aller chercher un morceau.
Alors, comment est-ce qu'on sort
de ça, oui.
C'est d'abord de voir dans quelles circonstances on va manger ce chocolat. Et d'abord, que ce soit pour le chocolat ou pour n'importe quelle prise d'aliments, l'idée c'est que le repas ne serve jamais de pause. Donc ça c'est hyper important. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? C'est de se dire, je prends une pause. Donc il y a un petit morceau de temps qui est dédié à prendre à marquer une transition, parce qu'on va parler de troubles de la transition. Donc je fais une petite pause et puis je mange et puis j'ai une petite pause. Il faut que le fait de manger soit déposé dans la pause et ne serve pas de pause. Si le fait de manger sert de pause, la pause n'en finit pas, parce que là il y a vraiment des réactions chimiques qui sont présentes dans le corps et qui font qu'on va continuer à manger. Et c'est d'autant plus vrai avec des aliments comme le chocolat. Alors, une deuxième chose, c'est d'être aussi dans le qualitatif, de se dire qu'est-ce qu'un bon chocolat, et je vais choisir le meilleur. Plutôt que d'acheter une tablette, déjà, je vais privilégier d'acheter du chocolat qui est emballé en portions plus petites, en portions individuelles, qui sera rangé quelque part très très loin de moi, style dans ma cave. Donc, je vais pas du tout faciliter l'accès. Et à partir du moment où je veux changer le comportement, eh bien... Donc je change l'aliment de place et puis je vais aller le manger dans un autre espace que celui où je mangeais d'une façon qui ne me convient pas. Donc si c'était dans ma cuisine par exemple, je vais dire je vais déguster, savourer mon chocolat dans mon salon, et cette fois je prends une petite tisane avec, et donc je vais vraiment casser les habitudes qui sont associées à cette prise de chocolat. Voilà, il y a encore d'autres choses qui interviennent, mais on va peut-être les garder pour la suite.
D'accord, maintenant on va passer un petit bout de musique et puis on se retrouve tout de suite après. Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez former le 082 22 58 pour poser la question à Marie-Pierre. Vous posez la question, puis elle y répondra. Nous sommes ensemble avec Marie-Pierre qui aujourd'hui nous parle donc des problèmes alimentaires et de toutes les conséquences que ça amène. Alors Marie-Pierre, les régimes, que doit-on en penser ?
Alors, les régimes, moi, je les définis comme étant une courte période de frustration qui précède une prise de poids et une déception par rapport à soi. Donc, le régime, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où on va se priver, où on va se mettre dans la restriction. Alors, ce qui se passe, c'est que le fait de se dire « non, tu ne peux pas », eh bien, notre inconscient, on se dit, c'est un peu... notre inconscient, il a... 4-5 ans d'âge mental, quand il entend « tu ne peux pas », eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il guette les opportunités et à un moment donné, eh bien, il va se lâcher. Alors, quand il va se lâcher, eh bien, ça va être tout et n'importe quoi. Et ça va être « je me lève, je prends quelque chose, je reprends une deuxième chose, une troisième chose ». Tout ça, c'est conditionné par le fait d'être dans le « tu ne peux pas ». Alors, une des premières choses que je fais dans les ateliers « Je m'assis par hypnose », c'est de dire aux personnes « maintenant, les régimes, mais, ok, vous mettez ça à la poubelle, on ne travaille plus du tout avec ce système-là, sauf si, voilà, il y a un diabétologue, un médecin qui a imposé des choses au niveau médical. Je ne parle pas de ça, mais je parle de régimes qu'on fait uniquement parce qu'on est en surpoids. C'est de réaliser que c'est ça qui fait grossir et c'est ça qui maintient le déséquilibre. Donc, l'idée, c'est de rentrer dans le « oui ». Alors, une attitude de oui qui est pour la nourriture et qui est une attitude oui pour toute la vie, pour tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc, une attitude vraiment d'acceptation, une attitude de faire avec. Et le oui pour l'alimentation, c'est j'ai envie de manger des frites. Eh bien, je me dis oui. Et à quel endroit, à quel moment est-ce que je vais les manger? Où est-ce que je vais trouver les meilleurs? Est-ce que ça va être seul? Est-ce que ça va être
accompagné?
Je vais en faire une fête. Donc, je vais me mettre ce oui, un peu comme on dirait oui à un enfant, un oui qui est bienveillant. C'est dire, ben oui, ok, tu as envie de frites, j'entends bien, on va aller les manger, tes frites. Eh bien, figure-toi que moi, je connais un resto où les frites sont extraordinaires et accompagné de leur américain, eh bien, c'est vraiment, c'est top. Et on va aller là, bah, je te propose qu'on y aille dimanche, avant notre marche. Et donc, c'est un oui qui recherche le meilleur, un oui qui est vraiment bienveillant. Alors, au début, quand on entend cette pratique du oui, ça peut faire peur. On se dit, ben, si moi je dis oui, je vais me lâcher totalement. Mais c'est l'inverse. À partir du moment où vous rentrez dans ce oui, le cerveau s'apaise et on va pouvoir reprendre une sorte de contrôle et une sélectivité. Si on est dans le non, non tu ne peux pas, et bien dès que la porte s'ouvre, on va manger pour, ben en fait c'est pas manger, c'est bouffer. Tandis que si on est dans le oui qualitatif, on va rentrer dans la dégustation et le fait de pouvoir justement manger lentement et de découvrir aussi quand on déguste et quand on mâche ces aliments qu'il y a un tas d'aliments qui ne sont pas faits pour être mâchés mais qui sont faits pour être engloutis, que l'industrie agroalimentaire nous pousse à consommer parce que ça fait vendre et parce que ça leur coûte rien du tout de produire, et il y a des choses qui sont mises dedans pour que ce soit addictif, pour qu'on en soit dépendant.
Donc, si je comprends bien, vous m'arrêtez si je me trompe, donc quelqu'un qui a décidé de maigrir par soi-même,
oui,
il doit tolérer quand même quelque part une acceptation de certaines choses, modérées bien sûr, mais s'il a envie de manger des frites, il doit les manger.
Et c'est exactement ça, c'est se dire oui, hein, j'ai envie de ça, et bien oui, bien sûr, j'ai le droit d'avoir envie de ça, et où est-ce que je vais et quand manger le meilleur.
Et ne pas exagérer, bien sûr.
Alors, on n'exagérera pas. Peut-être dans le début, moi, dans mon parcours, quand je me suis dit ben, oui aux frites, les occasions se multipliaient, se démultipliaient pour me retrouver en face de frites, hein, comme par hasard. Mais au fil du temps, comme je me disais oui, eh bien, j'ai senti et j'ai goûté, mais tiens, ça, ce ne sont pas des bonnes frites, ça, ce sont vraiment de très bonnes frites. Et puis, au fil du temps, ben, la quantité et le nombre de fois où j'ai mangé des frites a diminué, ce qui fait que maintenant, quand je prends des frites à un repas, il en reste toujours sur mon assiette. Je n'ai plus faim, je n'en ai plus envie. Mais pour passer par ne plus en avoir envie, d'abord, c'est se dire oui. Et il faut oser lâcher ce truc de l'interdiction, parce que c'est ça le piège. Et tous les régimes ont ça de point commun. Parfois, on a l'impression d'avoir tout essayé pour mincir, oui, et pour maigrir. Mais en fait, on n'a essayé qu'une seule chose. On parle de la même Barbie qui est habillée différemment. On dit, j'ai tout essayé, Weight Watchers, ces régimes protéinés, régime avec un super diététicien. Non, on a essayé qu'une seule chose, c'est se frustrer. Et donc, quand la frustration est là, ben, c'est la porte ouverte à la compensation,
On mange le double, quoi.
On mange, Oui, et bien au-delà. Alors, le problème, c'est que quelqu'un qui fait un régime et qui va perdre 3-4 kilos et qui va reprendre 3-4 kilos, ce ne sont jamais les mêmes 3-4 kilos. Il perd chaque fois de la masse musculaire, de la masse maigre, oui. Et il reprend chaque fois plus de la masse grasse.
Grasse.
Alors, comme les deux n'ont absolument pas le même volume, ça veut dire que quand on reprend 3 kilos après avoir perdu 3 kilos, on est bien plus gros qu'avant de les avoir perdus. Alors, il est beaucoup moins dangereux pour la santé de rester à un surpoids, entre guillemets, parce que bon, ça c'est relatif, ces histoires de surpoids. C'est bien plus nocif pour la santé de descente, montée, que de rester dans une stabilité. Et acquérir cette stabilité, mais c'est d'abord ce qui est avisé de faire. Oui. Et puis, tout doucement, quand on est dans ce oui, eh bien, on va se diriger vers son
Donc, il ne faut rien s'interdire, en fait.
Exactement.
Mais avec modération.
Sélectivité.
Voilà.
Qualité.
Voilà.
Vraiment se dire, OK, qualité, j'ai envie d'un verre de vin. Oh ben, je vais aller boire mon verre de vin quand j'aurai mon repas dans ce très bon restaurant où ils ont du très bon vin et je vais savourer mon verre. Mais si c'est boire une piquette tous les soirs chez soi, c'est pas du tout la même chose.
Stéphane.
Oui, j'ai une question personnelle, Marie-Pierre. Voilà. Le médecin m'a dit que je devais faire attention. Il m'a vu en surpoids. Hein. Je lui ai dit qu'il était. Hein. Et il m'a conseillé de faire un régime fractionné et de faire très attention. Je le suis magnifiquement bien à ce régime. Donc quand je me lève le matin, on déjeune, parfait. Jusqu'au souper, mon souper parfait, très calme, zen, avec Vincent. Et dès que j'ai fini le souper, je sais que j'ai plus faim. Je vais toujours dans l'armoire prendre du salé ou prendre du sucré. Je vais me rasseoir dans mon divan et puis hop, je me relève, je vais me resservir.
Alors ça, c'est vraiment le grand classique. Hein,
Est-ce que c'est lié à des angoisses?
Ah, ça peut, hein, ça peut.
Parce que je me sens bien.
Ouais.
Alors, et limite, je me sens bien de me lever, d'aller reprendre mon petit morceau de sucre et de. Ah. Et je le fais avec bonheur. Oui. Donc je ne me sens pas angoissée.
Alors donc il y a plusieurs facteurs ici. On est dans ce cadre des régimes où quelque part il y a un contrôle qui se fait pendant toute la journée
C'est
et
ça.
On peut un peu se shooter de ça, être super fier de soi.
Voilà. Et puis le soir, ça retombe.
Et
quoi.
Voilà. Alors, et le soir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ce besoin de relâchement. Et donc, on va se relâcher avec la nourriture. Alors, comment faire pour parer à ça? D'abord, c'est être dans le oui. Il faut bien se dire que tous les régimes qui ne sont pas réalistes, c'est-à-dire si on se dit « Oh ben non, moi j'ai l'anniversaire de Radio Hourtemblef et non, j'y vais pas parce que je fais régime », on n'est pas dans le bon, c'est pas possible. La vraie vie, c'est j'ai une invitation, je me dis « Waouh, j'ai de la chance d'être invité
». Et je vais y aller.
Et je vais y c'est aller. Ça. Si les régimes empêchent une vie sociale, c'est qu'il y a...
Il y a un problème.
C'est qu'il
oui.
y a un problème. Alors, si les régimes... empêche de manger des aliments qui font vraiment plaisir, il y a un problème. Donc l'idée, c'est d'être toujours dans ce oui tout au long de la journée. Et c'est pas nécessairement de répondre justement sur le champ à ce oui. C'est de se dire, ah tiens, j'ai vraiment envie de ça. Mmh, mmh. Oh tiens, quand est-ce qu'on irait bien au resto? On va y aller dans 3 jours. Donc c'est de pouvoir postposer, mais c'est en ça. Étant dans le oui. Alors, tout au long de la journée, si on est dans ce contrôle alimentaire, le soir, il y a un petit peu de fatigue et il y a un
Mais
besoin
oui,
physiologique de relâcher. Et ce qui va se passer, c'est que si on va vers ces aliments qui peuvent être, des faux salés, hein, comme des chips, parce que les chips, en fait, c'est du sucre pour l'organisme. En plus, c'est hyper cancérigène. Si on va vers ces aliments sucrés le soir, il y a une raison qui est purement physiologique. Cette raison, c'est que en consommant du sucre, il va y avoir une réaction chimique dans le cerveau qui correspond
de bien-être,
voilà. Exactement, où on va sécréter de la sérotonine. Sérotonine, on entend sérénité dedans, et puis qui va préparer aussi pour la mélatonine, pour le sommeil. C'est purement chimique. Donc on a besoin de ce sucre pour déconnecter. Mmh. D'ailleurs, on a vu énormément de dépression chez les personnes qui faisaient des régimes protéinés. Où, au niveau des reins, c'était hyper, hyper dangereux. Mais en plus, elles devenaient dépressives. parce qu'il y a zéro sucre, zéro glucides.
C'est ça.
Donc, le bon plan, c'est de manger le sucre, les saveurs sucrées, vers 16 heures, entre 16 et 17 heures. Ah oui. Donc là, de s'offrir un petit moment où il y a cette pause, et au milieu de cette pause, il y a un petit goûter sympa. Et peut-être une fois, c'est, ce sont des fruits secs.
Et puis quand Vincent me dit, attention là, qu'est-ce que tu fais ? Mais je me dis, j'ai tellement fait attention toute la journée que je peux...
Voilà,
et c'est là le piège, au fait.
C'est ça le piège. Donc, pour parer à ça, c'est dire, à midi, après mon repas de midi, un petit morceau de chocolat noir. C'est mon petit dessert. Ou des abricots, ou se faire une petite tisane où on met dedans une figue. Alors, la figue diffuse son sucre dans la tisane, puis on savoure la figue qui est toute.
Raplapla.
Justement, elle est toute réhydratée. elle est toute réhydratée.
Elle est sèche alors.
Oui, elle est sèche et puis
d'accord.
Et elle est toute réhydratée, donc ça fait un bon fruit à manger comme dessert. Donc se donner des desserts là à partir du repas de midi, ça c'est important. Et alors autre chose qui va intervenir, c'est que si toute la journée on est dans le rush, que ce soit un rush, une pression qu'on nous met ou parce qu'on est dans sa passion et on fait ce qu'on aime, on est dedans, s'il n'y a pas de pause pendant la journée, eh bien on aura besoin d'une d'autant plus grande pause le soir. Et cette pause, elle va pouvoir être permise grâce à ce sucre. Donc c'est physiologique, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Okay. Donc plus de récompenses d'aliments qui sont
dans la journée,
plaisir pendant la journée, et se faire des pauses. Alors se faire des pauses, ça peut être prendre quelques respirations, ne rien faire, être avec un téléphone, ce n'est pas ne rien faire, mais respirer dehors, se connecter à la nature, se connecter à plus haut, voilà, prendre des moments de pause pendant la journée, ça va éviter cet appel comme ça le soir.
Marie-Pierre, c'est valable pour le sucré et le salé, ou alors y a-t-il le salé est peut-être plus à même à ce qu'on se lève et qu'on aille chercher, ou c'est le sucré qui lui, comme vous avez dit, donc il donne de l'énergie.
Alors le sucré provoque la réaction chimique de bien-être. Mais je disais, il faut se méfier des faux salés. Il y a des aliments qui en fait goûtent le sel, mais si vous regardez du sucre, les chips, ça correspond à du sucre. Le taux de glucides est très très élevé.
Oui, mais il n'est pas neutralisé par le sel ?
Non, du tout, non. Non, absolument pas.
Fausse idée.
C'est une fausse idée, ça.
Ouais. Ouais. Non, absolument pas. Alors, le sel est vraiment hyper, hyper nocif pour la santé. Donc là, c'est aussi à questionner. Ça induit un tas de déséquilibres, de rajouter du sel dans son alimentation, ou de manger des aliments qui sont tout préparés et qui généralement sont explosifs en taux de sel.
Oui, d'accord. Petite pause musicale, on va poursuivre. Et on retrouve Marie-Pierre. Très intéressante cette conversation. Et il y a tout le monde qui est ici, a son cas personnel.
Oui, exactement. Oui.
Donc, on vient d'avoir celui de Stéphane. Est-ce que vous pourriez me parler, donc, par exemple, Chantal qui est diabétique, quel est le régime elle devrait avoir prendre pour pouvoir faire baisser ce diabète sans se priver, bien sûr.
Alors, moi, je vais plutôt répondre de façon préventive, donc je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas aller contre une prescription alimentaire d'un médecin. Il faut savoir que pour réguler son taux de sucre et pour ne pas avoir des problèmes de diabète, ce qu'on va préconiser, c'est que le premier repas de la journée, qu'il ne contienne pas ni de sucre ni de saveur sucrée, les deux. Alors, un repas qui ne comprend pas de sucre et de saveur sucrée, et ça c'est ce que je dis ici, on parle du diabète, mais c'est valable aussi pour éviter les compulsions alimentaires et les moments où à 10-11 heures on a un coup de barre et on est on sait plus comment on s'appelle, il faut absolument du café, du coca, du sucre. Tout ça c'est provoqué par la prise de sucre ou de saveur sucrée le matin, donc tout ce qui est édulcorant, tout ce qui goûte le sucre mais en fait n'est pas du sucre, ça c'est vraiment une catastrophe pour l'organisme, puisque l'organisme, il goûte le sucre, il se dit, ah tiens, voilà du sucre, donc je me prépare à gérer du sucre, et en fait, il n'y a pas de sucre. Mais en attendant, il s'est préparé, et au niveau de la glycémie, on va avoir des effets qui sont très problématiques. Donc, l'idée, c'est de déjeuner, donc sortir du jeûne, peu importe à quelle heure. Il n'y a pas d'heure pour sortir du jeûne, mais que les premiers aliments qu'on ingère, ce soit des aliments de type protéiné. Donc on va retrouver tout ce qui est viande, de la viande de poulet. Voilà. Alors ça peut être. Maintenant, il faut faire attention. Il y a viande de poulet et viande de poulet. Si le poulet, vous l'avez vu courir 10 minutes avant dans la ferme à côté, ou si vous prenez du filet de poulet qui est tout recomposé, oui. Ou là, c'est pas du tout le même aliment. Là, oui, il y a du sucre aussi dedans. Hein. Donc, manger des aliments de type un morceau de jambon, du poulet, des œufs, des noix, des noisettes, des amandes, tout ça c'est ok pour le déjeuner. Attention au pain, la majorité des pains ont une teneur en sucre, en glucides qui est très très élevée. Le pain n'est absolument pas un aliment recommandable, je sais que ça peut interpeller. D'entendre ça, et que ça peut bouleverser nos habitudes, mais ça ne doit pas être la grosse proportion de notre alimentation. Hein. Donc, ça peut être un petit morceau qui accompagne. C'est-à-dire que historiquement, le pain, il servait à se remplir à bas prix. C'est ça. Et maintenant, on a continué à fabriquer du pain qui est très, très addictif, qui est travaillé, retravaillé. Vous avez un magnifique pain complet. En fait, oui, il est brun, c'est gentil. C'est juste qu'on a mis un petit peu de chicorée dedans et on vous a...
Pour le tâter.
Pour le tâter. On vous a remis quelques graines dedans. Comme ça, vous sentez qu'il y a quelque chose. Voilà, déjà, s'il n'est pas bio, c'est problématique. Hein. Vous avez un pain complet qui n'est pas bio. Ça veut dire que vous avez toute l'écorce, toute l'écorce de la graine qui a été exposée aux pesticides que vous consommez. Donc tous les pains intégrales, entre guillemets, qui ne sont pas bio, si on est bien intoxiqué. Alors tous ces pains, en fait, ils sont qui sont de fabrication industrielle, mmh. Et même malheureusement chez des boulangers, les farines de qualité, oui. Ça se fait de plus en plus rare. Si on veut un pain qui soit plus ou moins correct, c'est plus se diriger vers un magasin bio, un pain au levain, un pain qui est à base de farine de petite épeautre. Un peu les critères, ça pourrait être si vous coupez la tranche de pain, elle tient debout toute seule. Et là, vous savez que vous avez quelque chose qui est consistant. On retrouve ça aussi dans le pain essénien. Ce ne sont pas du tout les mêmes aliments, mais dans tout ce qui est sandwicherie, etc., c'est une catastrophe. Et je vous disais tantôt, un demi-sandwich, ça correspond à 24 morceaux de sucre. Alors que, quoi que vous mettiez sur votre baguette, ouais. Parce que ça a été cuit et recuit, parce que vous avez cette magnifique croûte qui, voilà, parenthèse, il faut savoir que c'est très cancérigène, ça. C'est du sucre. Donc là, on dirait, moi, je ne mange pas sucré, je mange un sandwich au jambon. Si, en fait, c'est du sucre. Donc, se méfier de ça le matin. Et attention, Stéphane, le café.
Je suis un drogué du café, moi. C'est Monsieur Café.
Le café à jeun.
Sans sucre, je précise.
Ouais. Alors, malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Le café qui est pris à jeun aura un effet aussi au niveau de la glycémie. Donc, si on boit du café, c'est de le prendre posément sur son déjeuner, en cours de repas.
D'accord.
Mais certainement pas...
Mais pas à jeun.
À jeun, voilà.
Moi, je fais tout ce que vous avez dit, là, qu'il ne faut pas faire.
Et puis, l'appel...
C'est la totale, moi.
Et puis, le pain, c'est un appel à la tentation aussi. Parce que moi, quand mon pain, il est bien frais...
Il sent bon, hein.
Au lieu de prendre 2-30, je vais aller encore plus loin dans le train. Exactement. Dans le pain, dans le train. je demanderai à mes guides ce que ça veut dire. C'est un signe. Mais... Non, c'est un appel à la tentation.
Oui,
quand il est bien froid, on le finit plus vite.
C'est fait pour en même temps.
Voilà.
Donc voilà, on est dans les aliments peu qualitatifs et des aliments qui sont de type addictif. Et donc, de s'offrir un vrai bon pain et tu vois, bah, tiens, cette tranche, elle tient toute seule. Et quand je la mâche, il y a vraiment quelque chose derrière. Le pain qui fait bouffer, ben, on mâche trois fois et puis il n'y a plus rien.
Mais c'est vraiment ça.
Donc voilà, un bon pain, ce sera déjà ça.
Marie-Pierre, donc comme je vous le disais, moi je suis vraiment dans la lignée que vous venez de raconter. Là, hein, donc tout ce qui n'est pas bon, c'est ce que je fais. Hein, j'en suis consciente, mais bon, voilà. Et alors, en plus de ça, c'est que pour compléter le tout, c'est que je ne mange jamais assise. Je suis toujours debout, en train de faire quelque chose.
Ah oui.
Je ne m'assieds pas. Je suis toujours en activité au moment de manger. Donc, ce qui veut dire que quand je suis avec mon mari, on est à table. Lui, il commence à peine son repas, que moi, j'ai déjà fini, je lave déjà mon assiette, quoi.
Alors,
pour
ça,
vous donner un exemple.
J'ai eu ce même problème là, parfois.
Oui.
Je suis
oui.
à table, je mange avec tout le monde et puis j'ai fini. Alors je ne sais pas vraiment rester à table. Je me lève parfois et puis je vais mettre mon assiette dans le lave-vaisselle et puis c'est fini.
Ouais, donc ça, on touche à...
Que je n'ai pas au restaurant. Là, je prends mon temps, c'est du plaisir. C'est mais à la maison, c'est vrai que je suis un peu plus speed.
Pour ça que allons au restaurant. Hein.
Là, c'est du plaisir, on a le
Exactement.
Temps, on parle.
Mais ça ne change rien, moi, c'est ça le souci.
Même au restaurant,
tu fais la vaisselle,
non, ça ne change rien.
Mais enfin...
En deux temps, trois mouvements, mon assiette, moi, elle est terminée, hein.
Pour aller faire la vaisselle au resto aussi.
Oui, mais on me veut pas. On me veut pas, Marie-Pierre. Donc voilà, je n'ai même pas le temps de goûter en fait ce que je mange parce que je mange tellement vite. C'est tellement voilà. Voilà.
Donc c'est vrai qu'on a parlé de la qualité des aliments, de quoi manger, mais ici c'est un point qui est hyper hyper important, c'est comment manger. La mastication, c'est fondamental. Donc il y a plusieurs éléments. On se dit le repas ne sert pas de pause, il est inclus dans une pause. Et ce deuxième aspect qui est fondamental, qui est la mastication. Alors, nombre de mastications minimales et nombre de mastications optimales.
Mais je ne vais pas le dire parce que moi, je le sais.
Voilà.
Donc, je vais laisser répondre les autres.
Oh, j'ai certainement oublié.
Eh ben, alors, donne à Marie-Pierre.
Je dirais...
Ouf. Non, pas dans une précédente, à la salle.
37 fois.
Ah, c'est un beau chiffre.
Non,
37.
Je crois que c'est 130, dans les 130 quand j'ai mangé.
Alors, c'est... Minimum 50 fois.
Oh, et j'étais un peu haut, moi.
Voilà.
Idéalement,
150 fois. Alors, ça a plusieurs fonctions, la mastication, mais la première, c'est de comprendre que le système digestif, il a différents... il se fait à différents niveaux.
Oui.
Et la toute première étape, c'est la mastication. Ce qui ne se fait pas lors de la mastication ne pourra pas se faire par la suite. Donc, si... on ne mâche pas, le reste de la digestion ne peut pas se faire. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact ? Ça a comme impact que l'organisme va percevoir les aliments comme des agresseurs, parce qu'il ne peut pas les reconnaître. L'organisme est fait pour assimiler des aliments qui sont coupés, découpés, redécoupés. Il ne va pas les reconnaître. Les réactions, ça va être des réactions inflammatoires, des réactions où l'immunité n'est plus du tout là, ou des multi-allergies. Tout ça, c'est la conséquence d'une absence de mastication. Un vieillissement prématuré, parce qu'on ne peut pas
assimiler,
assimiler les nutriments, et qu'en plus, la nourriture est perçue comme... un ennemi. Et donc, il y a des réactions de combat qui s'amorcent par le corps. Donc, la mastication, c'est la santé. J'ai un atelier qui s'appelle « Mâcher pour maigrir » où on va justement intégrer le fait de mâcher en hypnose, hein, par pratique d'auto-hypnose. Donc, le numéro un de la santé, c'est la mastication, et le poids va s'en suivre.
D'accord. Donc, ce que je fais, c'est pas bien.
Ça dépend.
J'engloutis, moi. Hein.
Voilà.
Deux temps, trois mouvements, il faut que ce soit mangé.
Ça, c'est pas manger, c'est engloutir, effectivement.
Mais c'est pour pas perdre de temps, quoi.
Alors, ce qui va être une perte de temps, c'est toutes les maladies qui, malheureusement, suive sur un terrain. Donc, il y a un tas de choses, comme je l'ai dit, qui peuvent se développer. Et il y a des études qui ont prouvé ça, où on analysait mais ce qui restait là dans l'intestin des personnes. Et on regardait par rapport à certaines pathologies et des trucs pas sympas, comme des pathologies dégénératives, comme des Alzheimer, des choses comme ça. Oui, il y a vraiment un lien. Donc là, c'est à remettre absolument en priorité. Et je dis toujours aux personnes, il vaut mieux que vous mangiez de la nourriture qui vient de magasins type Aldi et Lidl et qui soit mâchée, que d'aller payer bien cher du bio et de la nourriture tip-top et de l'avaler. Parce que de toute façon, c'est un poison pour le corps.
Oui, donc je suis empoisonnée, quoi.
Eh bien, il est temps de se remettre maintenant.
On peut toujours agir à temps.
Voilà, exactement. Donc ça...
Il n'est jamais trop tard.
Il est toujours temps. C'est-à-dire comment je vais faire pour revenir à la mastication et mettre ça en place. Mais parfois, en questionnant le fait de mâcher, on va questionner d'autres aspects de notre vie. C'est loin d'être anodin, ce n'est pas un acte isolé. Il se dit, pourquoi est-ce que je cavale comme ça? Au fait, je suis pressée par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait que je me surcharge? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de quitter cette table? Ça questionne beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vital.
D'accord. Musique, maestro. Retrouvons Marie-Pierre qui nous parle aujourd'hui de l'alimentation, ses bienfaits et ses méfaits également. Suivez mon exemple pour les méfaits, je vous expliquerai. Et puis Marie-Pierre également, il y a une autre maladie, c'est une maladie, moi je pense que c'est une maladie, c'est la boulimie. Oui. Alors, on n'est pas boulimique, même si on a envie d'un morceau de chocolat, ou comme Stéphane qui se lève 36 fois pour aller chercher des chips ou du salé.
C'est pour faire du sport qui fait ça.
Oui, oui, à mon avis, oui, il a la ligne quand ça, même. Hein.
Il se lève de son
mannequin.
Fauteuil, il se lève et se rachète.
Je ne vous cours. Allô. j'ai perdu la communication.
Comment arrive-t-on à la boulimie?
Alors,
et qu'est-ce?
Alors, la boulimie, ça c'est un trouble où on va manger sans avoir faim. Et ça peut aller jusqu'à boulimie vomitive. Donc, je l'ai expliqué l'autre fois, ça c'est mon parcours où moi j'ai eu ce trouble-là pendant plus de 20 ans. Mais c'était...
Vous en étiez rendu compte tout de suite, Marie-Pierre?
Disons que au début. Moi, j'ai commencé ce trouble-là enfin dans l'adolescence. Et donc, ça commence par des obsessions de régime et de contrôler, vouloir contrôler sa nourriture. Et puis, finalement, ça débouche sur manger et puis vomir quand on se dit qu'on a trop mangé. Alors... La boulimie, on va dire que c'est une, on peut appeler ça un trouble, on peut appeler ça une pathologie. Ça se dépose sur des terrains où il y a des problématiques, des choses qui sont très difficiles à vivre. Moi, je vivais des choses au niveau familial qui étaient juste intolérables, incompréhensibles, et c'est un peu la vie que je vomissais. Et donc, au fil du temps, donc moi, je me retrouvais à pouvoir manger, vomir parfois 10 fois par jour. Et même presque pendant la nuit.
Même la nuit, Marie-Pierre.
Oui, où l'obsession est là, hein, et on est vraiment complètement pris par ce comportement qui est un comportement destructeur, évidemment. Donc moi, je voyais que je vomissais du sang, je voyais que j'avais plein de problèmes physiques parce qu'on a des problèmes au niveau du cœur, il y a l'organisme qui s'affaiblit. Il faut se dire qu'en plus on mange pas, on engloutit, on bouffe, hein, moi je pouvais vomir quasi l'équivalent d'un seau de 10 litres. On se dit ce que ça fait à l'organisme, c'est affreux parce qu'on avale des gros morceaux et puis on les fait repasser dans l'autre sens, alors que l'organisme n'est absolument pas prévu pour ça, puisqu'on a des espèces de clapets anti-retour, si on peut dire, dans le système digestif, justement, pour que la nourriture ne remonte pas. Alors, vomir une fois parce qu'on a mangé quelque chose qui est contraire, ben, c'est aidant, évidemment, et ça permet de se libérer. Mais on n'est absolument pas conçu pour faire repasser la nourriture comme ça plusieurs fois par jour en gros morceaux. Et donc, moi, je sentais la destruction qui était là et je sentais que je me détruisais. Oui. Mais je ne savais absolument pas m'arrêter. J'étais droguée au fait de savoir, dit, mais ah oui, je vais bouffer toute cette quantité de nourriture et je vais être libérée aussi, parce que le fait de vomir, ben c'est comment, c'est une libération. Et donc il y a une dépendance à ça. Donc là, on est vraiment dans des troubles alimentaires avancés. Dans mes ateliers, j'ai de temps en temps des personnes qui ont cette problématique là, mais c'est absolument pas la majorité, et heureusement, heureusement pour elle. J'ai expliqué l'autre fois, moi, c'est vraiment l'hypnose qui m'a permis de me sortir
De cette impasse-là.
De cette impasse-là, parce que je crois que j'étais loin au bout de l'impasse.
Et la famille autour, Marie-Pierre, elle peut aider, elle peut se rendre compte, elle.
Oui, et parfois la famille se met la tête dans le sable et fait semblant de ne pas voir ça. Moi, j'étais dans une famille qui était bien trop préoccupée par ses propres problèmes que pour s'en rendre compte. Et puis, quand il y a eu des prises de conscience, ça a été plus une attitude de critique. Et c'est du gaspillage. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges, tu vomis, mais c'est honteux. Ou c'était plutôt...
Donc, c'était uniquement parce que vous mangiez et que vous alliez vomir. Donc, c'était le fait que vous gaspillez.
Voilà, c'est ça.
On ne se tracassait pas que c'était le fait que...
De la détresse qui était là derrière. Ça, c'était... Voilà, mais bon... Mes parents n'en étaient pas capables, ils avaient leurs propres difficultés. Donc voilà, mais la famille, oui, a son rôle à jouer, et tous ces troubles alimentaires, parce que dans la boulimie vomitive, on est à la frontière de la boulimie et de l'anorexie, il faut bien se dire que 9 fois et demi sur 10, c'est le reflet d'un problème familial. Mmh. C'est la famille qui va mal, et c'est la personne qui a le problème, qui exprime le mal-être de la famille.
Quand vous vous en êtes rendu compte de ça, que vous avez pris conscience de ce problème, qu'avez-vous fait ?
Ah ben, c'est un problème qui est honteux. Maintenant, j'en témoigne, voilà, parce que je pense que ça peut vraiment aider des personnes qui sont coincées là-dedans. C'est honteux de manger et de vomir. J'ai un peu essayé de me retourner vers des médecins, mais qui connaissaient pas vraiment le problème. On est plus dans des remarques, c'est de la volonté. Quelle idée quelque part de faire ça, mais c'est un comportement qui dépasse. Donc on est assez démunis. Enfin, en tout cas, voilà, au moment où je l'ai vécu moi. Maintenant, je pense qu'on en parle beaucoup plus librement, et on consulte pour ça.
D'accord. Marie-Pierre, donc, quels sont vos en quelques mots, les conseils qu'on doit adopter, en fait? Donc, c'est bien mâcher, c'est avoir une alimentation. Je vous laisse continuer.
Oui, donc ça, c'est bien. Je suis heureuse que Marina a retenu le principal. Hein. Donc là, c'est pas le principal, mais c'est vraiment un élément qui est hyper important. Donc, la mastication, l'attitude du oui, et de sortir de cette... de cette prison des régimes, et l'importance du travail qu'on peut faire en hypnose, qui justement va travailler au niveau de l'inconscient, parce qu'il faut se dire que notre relation à la nourriture, eh bien, elle est vraiment guidée par notre inconscient. Et en hypnose, on s'adresse à cet inconscient et on peut vraiment modifier la relation qu'on a à la nourriture et les comportements alimentaires.
Donc, si vous êtes dans le cas de tout ce que nous venons d'énumérer aujourd'hui, moi, je vous conseille de téléphoner à Marie-Pierre. Marie-Pierre Prudhomme, qui est, elle, hypnothérapeute. Elle peut vous aider dans quel que soit votre problème. Quel que soit le problème.
Voilà, on travaille toutes les thématiques.
Voilà, aujourd'hui, on a parlé de l'alimentation. Oui. Et elle peut vous aider. Donc, pour ce faire, vous lui téléphonez au 0478 99 71 57.
Voilà.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle. Vous recevez à domicile, Marie-Pierre ?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai un cabinet chez moi, et alors il y a les ateliers aussi, les ateliers alimentaires. Alors, l'info, elle se trouve sur le site internet hypnoseprudhomme.be, hypnoseprudhomme.be, où là on retrouve toutes les infos.
Moi, je vous conseille quand même, si vous êtes dans le cas de ce qu'on a énuméré aujourd'hui, c'est ne pas rester comme ça.
Exactement, il faut se faire aider. De sortir déjà le premier pas, c'est de prendre contact et se dire, je suis pas seule, et il existe des solutions.
Donc, si vous n'avez pas retenu le numéro, je vous le rappelle quand même, c'est le 0478-99-71-57. Marie-Pierre Prudhomme est là. Elle n'est pas là comme ça par hasard. Hein. Donc, elle est venue pour pouvoir aider les personnes, un nombre de personnes. Donc, si vous avez des problématiques, n'hésitez surtout pas à prendre conseil auprès d'elle. Un conseil, vous donnez ça.
Il y a de nombreuses personnes qui me téléphonent, oui, au préalable à un rendez-vous. Et il y a de toute façon toujours un échange pour voir ce qui se
passe. Et comment appelle-t-on ça, donc, quand on vous consulte? C'est une thérapie, comment
on... Ah oui, oui, ça peut s'appeler thérapie, ça peut s'appeler coaching, ça dépend un petit peu de la mode, hein, toute cette terminologie-là. Mais en tout cas, c'est un accompagnement pour pouvoir retrouver une autonomie et une liberté. Parce que quand on est coincé dans les troubles alimentaires ou même n'importe quel autre problème, mais on recherche quelque part à se libérer.
À se libérer, de toute façon.
Donc, on va appeler ça un accompagnement, et moi, je travaille beaucoup avec l'hypnose.
Donc, n'hésitez pas. Alors, Marie-Pierre, la fois prochaine, on parle de quoi ?
Je ne sais pas, c'est une thématique qui vous ferait plaisir. Moi, je pensais peut-être au sommeil.
Mais surtout, parce que moi, je ne dors pas.
Voilà. Oui.
Donc, vous avez un cas spécial ici. Hein.
Voilà.
Vous avez un cas spécial. Okay. Alors, non, je ne prends pas de calmant, je ne prends rien du tout, moi. Donc, mais bon, à 1h30 du matin, c'est ma tape. Je suis levée.
Voilà.
Donc, c'est pas normal, quand même, quelque part.
Ce n'est pas trop, non.
pas trop.
Mais surtout que le corps et le mental a besoin de repos. Donc, c'est vrai que si on se relève au milieu de la nuit, ça va être compliqué.
Oui. Néanmoins, vous verrez que ce n'est pas si problématique que ça.
Il y a moyen d'y parer.
Voilà, et de faire avec.
Peut-être améliorer ce sommeil. Oui. Il est peut-être de qualité. On dit souvent que lorsqu'on est plus âgé, on a besoin de moins de sommeil.
Oui. Il y a plein de choses aussi qu'on croit et qui nous pourrissent un petit peu la vie au niveau du sommeil, mais on fera le tour de tout ça.
D'accord. Alors, Marie-Pierre, prochain rendez-vous.
Alors, je ne sais pas quand on l'a mis. Ça, il faudra qu'on confirme. Si c'est le mois prochain ou...
C'est le mois prochain, normalement. Prochain, oui. Donc, on est le quantième vendredi du mois.
Le quatrième.
Le 6 ?
Le 6 décembre.
Le 6 décembre.
Saint-Nicolas.
Oui.
Ah ben voilà.
Oh ben.
Vous mettra... Une bonne raison de manger du sucre.
Oui. On vous mettra un bonhomme en sucre, là.
Je sors.
Ou un spéculoos, un grand spéculoos, là, vous savez. Et on vous trempera ça dans du lait.
C'est tout pour moi, ça.
Oui, ben, je m'en doute. Voilà, Marie-Pierre, un grand merci pour tous ces conseils. Il y en a encore d'autres, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir à un autre moment approfondir encore plus que ce qu'on a fait aujourd'hui.
Avec plaisir.
Et la fois prochaine, moi, je me réjouis déjà, parce que le sommeil, ça m'embête quand même quelque part. Moi, je suis là à 1h30 du matin, comme une âme en peine, debout. J'ai presque fait une journée, moi, quand il est 10h. J'ai fait 24 heures, quoi. Merci à vous, Marie-Pierre.
Un grand merci.
Et puis,
merci,
bon retour.
Merci, Stéphane.
Et à la prochaine fois.
Oui, à la prochaine fois.
Merci, Marie-Pierre. Au revoir.